Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, Éclairage s'intéresse à l'œuvre d'un chirurgien qui a sauvé la vie de millions de personnes depuis qu'il a mis en place, à la fin des années 60, les bioprothèses cardiaques. Il vient de recevoir en septembre 2007 le prix international Albert Lasker avec un autre grand chirurgien américain, Albert Starr. Le prix Albert Lasker est considéré comme le prélude d'un prix Nobel de médecine. Nous avons donc le plaisir de recevoir dans notre studio Alain Carpentier. Alain Carpentier, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans le studio de Canal Academy. Nous avons eu le plaisir de vous recevoir une première fois pour une émission consacrée à la première allogreffe du visage. Et nous invitons d'ailleurs nos auditeurs à l'écouter. Elle est dans la médiathèque de Canal Academy en libre téléchargement. Dans cette émission, Alain Carpentier, nous allons pouvoir parler plus en détail de votre carrière et de vos inventions en matière de réparation cardiaque. Auparavant, quelques mots pour vous présenter. Vous êtes professeur émérite à l'université Pierre et Marie Curie, ainsi qu'à l'université de New York, chirurgien des hôpitaux de Paris, vous officiez dans le département de chirurgie médico-vasculaire et de transplantation d'organes à l'hôpital Georges Pompidou. Vous avez également fondé le premier centre cardiologique au Vietnam, ainsi que des programmes de chirurgie cardiaque dans 10 pays d'Afrique francophone et au Moyen-Orient. Vous êtes également membre de l'Académie des sciences dans la section biologie humaine et sciences médicales. Commençons, si vous le voulez bien, par le prix Albert Lasker, connu dans le monde scientifique, mais peut-être assez mal du grand public. C'est un prix international de grande renommée que vous avez reçu, conjointement avec le professeur Albert Starr, pour avoir développé les bioprothèses de valvules mitrales et aortiques qui ont prolongé la vie de millions de gens souffrant du cœur. Nous allons parler en détail des valves cardiaques, des valvules, mais peut-être pourrions-nous commencer par un petit cours d'anatomie. À quoi cela correspond-il et quelles maladies correspondent à ces anomalies cardiaques, Alain Carpentier ?
D'abord, il faut peut-être dire que la chirurgie cardiaque n'existait pas il y a 60 ans. C'est finalement une jeune discipline qui n'existait pas il y a 60 ans et qui a fait, pendant ces 60 ans, des progrès absolument considérables. Alors, en ce qui concerne l'une des parties de la chirurgie cardiaque, une partie importante de la chirurgie cardiaque, qui est la chirurgie des valves cardiaques, eh bien, que sont les valves cardiaques ? Les valves, ce sont ces clapets qui permettent au sang cheminer dans le bon sens. Le cœur a quatre de ces clapets qui, encore une fois, orientent le sang soit vers nos vaisseaux, soit vers les poumons, faisant en sorte que le sang progresse, mais ne peut pas refluer dans le cœur qui bat, comme vous le savez, de façon alternative. Voilà ce que sont ces valves. Alors, c'est un mécanisme finalement assez simple. Ça s'ouvre et se referme simplement sous le jeu des gradients de pression, des différences de pression. Mais même si le mécanisme est très simple, il faut savoir que quand ces valves sont malades, bien le malade meurt à terme. Et par conséquent, elles sont un élément aussi essentiel que des soupapes le sont pour un moteur, par exemple. Alors, quelles sont les maladies ? Vous m'avez demandé quelles étaient les maladies actuelles qui altèrent ces valves, rendant nécessaire leur remplacement. Eh bien, c'est assez curieux parce qu'il y a des maladies qui sont apparues et puis d'autres qui ont disparu. Les maladies qui ont disparu, ce sont essentiellement les maladies inflammatoires qu'on appelle le rhumatisme articulaire aigu. C'est une maladie qui est encore très fréquente dans les pays en voie de développement, qui est due essentiellement à une angine streptocoxique. Mais les angines streptocoxiques sont maintenant systématiquement traitées dans nos pays grâce à des antibiotiques qu'il faut traiter dès qu'on a un enfant qui a une angine streptocoxique, moyennant quoi il évite cette maladie, qui est très curieuse parce qu'elle s'appelle rhumatisme articulaire aigu, donc c'est un rhumatisme, mais le rhumatisme lui-même ne laisse aucune trace. Par contre, ce qui laisse des traces à distance, c'est l'atteinte des valves qui est due à la toxine streptocoxique qui fait son œuvre à bas bruit et qui détruit progressivement les valves.
Et qui provoque à terme un souffle cardiaque ?
Et qui provoque à terme un souffle cardiaque, le souffle disant que la valve fonctionne pas correctement.
Donc cette maladie, on la trouve, comme vous le disiez, dans les pays en voie de développement essentiellement.
C'est ça. Alors donc, elle existe encore dans les pays en voie de développement. Vous avez cité que j'ai développé au Vietnam un institut et également des programmes en Algérie. Et là, on rencontre beaucoup, beaucoup encore de maladies rhumatismales. Alors, ça, c'est la maladie qui progressivement disparaît. Et puis, en même temps, une maladie qui progressivement apparaît, ou plus exactement, qui se montre progressivement, qui existait autrefois, mais beaucoup moins qu'aujourd'hui. Pourquoi ? Eh bien, parce que l'espérance de vie, la durée de vie augmente, et c'est une maladie dégénérative qui se voit essentiellement chez l'adulte âgé, c'est-à-dire après 60 ans. Alors, comme le nombre de gens âgés augmente, eh bien, le nombre de ces malades augmente. Donc, vous voyez qu'il y a eu à la fois disparition et apparition. Apparition aussi, ou plus exactement, augmentation de fréquence aussi, les infections. Les infections des valves sont quelque chose de très courant, de plus en plus courant maintenant, en raison de pratiques en particulier chez les drogués, des injections qui se font dans des conditions déplorables.
Est-ce qu'il existe aussi des maladies congénitales ?
Alors ça, c'est une très bonne question. Il existe des maladies valvulaires congénitales, des malformations valvulaires congénitales, mais beaucoup moins fréquentes, beaucoup moins fréquentes. Elles existent. Fort heureusement, la plupart du temps, elles peuvent être réparées. Et donc, on n'utilise pas les prothèses artificielles chez l'enfant, ou très peu. Et ça, c'est une autre histoire. C'est en effet des techniques que j'ai développées pour essayer d'éviter de mettre en place ces valves, ce que j'appelle la chirurgie reconstructrice des valves, qui évite de mettre en place des prothèses.
Alors, justement, là, il y a plusieurs possibilités pour avoir une atteinte au niveau de ces valves cardiaques. Ça correspond à combien de personnes ? Est-ce qu'on a une idée du nombre de patients touchés par ce genre de...
Alors oui, le nombre de personnes dans le monde touchées par les maladies valvulaires, c'est 400 000. 400 000 personnes. Mais sur ces 400 000, il y en a 90 000 qui peuvent être réparées. C'est-à-dire qu'on évite de mettre une prothèse et on répare. Mais pour le reste, c'est-à-dire que donc plus de 300 000, 310 000, eh bien, il faut faire un remplacement. Pourquoi ? Parce que les valves sont trop malades ou elles ont été envoyées au chirurgien trop tard. Alors, c'est là qu'interviennent, en effet, les prothèses, qu'on appelle les prothèses valvulaires, c'est une espèce de clapet artificiel, et, comme je l'ai expliqué, qui ne s'ouvre que dans un seul sens.
Alors, justement, parlons en détail de ces prothèses. En 1960, c'est Albert Starr, qui a reçu d'ailleurs le prix Albert Lasker avec vous, qui met en place une première prothèse en acier. Alors, vous avez apporté ici, dans notre studio, un exemplaire de cette prothèse qui est assez massive et qui a une petite bille et puis un support métallique. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette invention ?
Alors, j'étais pas né à la chirurgie cardiaque à l'époque, mais ça a été une révolution parce que jusqu'à la naissance de cette prothèse, tous les malades mouraient. Et ça, c'est quand même pas loin. Alors, tous les malades mouraient. Nous sommes en 1960 et Albert Starr, qui est un tout jeune chirurgien, se voit abordé par un ingénieur à la retraite qui s'appelait Lowell Edwards. Et Lowell Edwards lui dit « Je voudrais faire un cœur artificiel ». Et Albert Starr lui dit, écoutez, l'heure n'est pas au cœur artificiel, il y a une maladie terrible qui s'appelle les maladies valvulaires, essayons de faire tout simplement un clapet ensemble. Et alors, comme cet ingénieur était un ingénieur dans le domaine de la mécanique, eh bien, ils ont naturellement, se sont orientés vers une solution à clapet avec des matériaux artificiels. Et le plus extraordinaire, c'est qu'ils ont choisi un système qui est le plus éloigné possible du système normal. On aurait pu penser qu'ils essayaient de copier la nature. Mais non, ils n'ont pas copié la nature, ils ont fait une espèce de bille qui se meut dans une cage. Alors la bille dégage l'orifice, et puis à ce moment-là, le sang passe. Et puis, au temps suivant, le sang retombe sur la bille et la bille vient obturer l'orifice, c'est-à-dire le siège métallique de la valve. C'est un système que les cabaretiers connaissent bien parce que c'est ce qui permet de verser le Ricard, le Pernod, avec une dose bien limitée.
Vous pensez que c'est là qu'Albert Starr a trouvé son inspiration ?
Je ne sais pas s'il s'est inspiré de ça, mais enfin, en tous les cas, vous trouvez ce système chez les cabaretiers pour doser la quantité d'alcool. Enfin, quoi qu'il en soit, voilà, la première valve, donc artificielle, prothèse mécanique, dite mécanique, ça a été fantastique, parce que les malades mourants ressuscitaient après cette opération. Certes, c'était à l'époque une opération très compliquée qui n'a plus rien à voir avec ce que nous faisons aujourd'hui. Les choses se sont beaucoup simplifiées, mais c'était véritablement miraculeux. Alors, comme toujours dans la vie, dès que vous inventez quelque chose, il y a naturellement des difficultés.
C'est la question que j'allais vous poser. Est-ce qu'il y avait risque de rejet, par exemple ?
Alors, non, il n'y a pas de rejet dans le cas précis. La difficulté qui est apparue, c'est que ces matériaux ne sont pas des matériaux naturels et le sang a tendance à coaguler à leur contact.
Il y avait donc risque de thrombose.
Alors, ce qu'on appelle des thromboses, en effet, ces thromboses soit obstruent l'orifice et la valve ne fonctionne plus, la bille ne joue plus correctement. Et pire encore, ces caillots peuvent migrer dans le cerveau et faire des paralysies très graves. Et cette complication qui est la thrombose, formation de caillots, n'était que partiellement réduite par la prise systématique d'anticoagulants. Alors, les anticoagulants, c'est des substances très efficaces qui évitent la formation de caillots, mais à condition de donner des doses assez importantes qui font courir des risques d'hémorragie. Alors, vous voyez, on oscillait entre Charybde et Scylla. D'un côté, la thrombose. De l'autre côté, l'hémorragie. Et toutes les valves mécaniques qui ont été même inventées par la suite sont confrontées à ce problème.
C'est donc aujourd'hui quelque chose qu'on n'utilise plus, par exemple ?
Si, c'est quelque chose qu'on utilise encore pour des raisons que je vais dire plus tard, mais évidemment en sachant qu'il y a ce risque et cette contrainte. Parce que les anticoagulants, c'est à vie et tous les jours. À vie et tous les jours. Alors, c'est quand même une contrainte, plus les complications, comme je l'ai indiqué.
Comme vous l'expliquiez, en 1960, vous n'étiez pas encore voué à la chirurgie cardiaque. Et pourtant, 8 ans ou 9 ans plus tard, vous vous mettez, vous également, à travailler sur une bioprothèse.
Alors, c'est très simple. Moi, j'interviens, n'est-ce pas, quelques 5-6 ans après. Et je trouve cette situation. J'arrive en chirurgie cardiaque et je trouve cette situation. Et j'aime rappeler toujours parce que en médecine le progrès est souvent stimulé par l'histoire d'un malade particulier. Je me souviens très bien de ce malade qui était un artiste peintre qui avait eu justement une valve de Starr. Sa vie était sauvée par la valve de Starr, mais il avait fait au contact de cette valve un caillot. Le sang s'était coagulé, le caillot avait migré dans le cerveau et ce peintre auquel on avait sauvé la vie ne pouvait plus peindre à cause de la paralysie due à ce caillot. Alors ça m'avait considérablement affecté et c'est à ce moment-là très précis que j'ai décidé de m'attaquer à ce problème. Donc m'attaquer à ce problème des thromboses, des valves mécaniques.
Je vous propose de marquer une première courte pause à la Carpentier et dans la seconde partie, nous allons pouvoir parler plus en détail justement de vos travaux.
Canal Academy rend hommage aux grandes figures historiques de l'Institut de France. Jean-François Revel, de l'Académie française, décédé en 2006. Jacques Bainville, également journaliste et également immortel de la française, mais d'une autre génération. Les frères Rénac, grandes figures de la Troisième République, dont l'un d'entre eux, Salomon, était membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. François Arago, scientifique du XIXe siècle, membre de l'Académie des sciences dès l'âge de 23 ans. Charles Trenet et Delacroix, tous deux membres de l'Académie des beaux-arts. Roger Arnaldez, philosophe de la pensée orientale médiévale, ainsi que beaucoup d'autres figures de l'histoire des académies qui, je vous le rappelle, remontent jusqu'au XVIIe siècle.
Suite de notre émission Éclairage en compagnie d'Alain Carpentier qui a reçu en septembre 2007 le prix Albert Lasker qui est l'équivalent d'un prix Nobel là-bas aux États-Unis. Je rappelle d'ailleurs à nos auditeurs que ce prix a couronné aussi les travaux de Luc Montagnier, d'Étienne-Émile Beaulieu et de Pierre Chambon qui sont également membres de l'Académie des sciences comme vous, Alain Carpentier. Alors ce prix Albert Lasker récompense vos travaux sur les valves cardiaques et justement, avant de faire une pause, nous en étions à la première prothèse que Albert Starr avait mis au point mais qui provoquait provoquaient des thromboses et on devait prendre donc un traitement justement pour diluer le sang, en tout cas voilà, éviter les thromboses. Et justement, vous arrivez, vous, dans les années 65, 66 ou 67, 68, avec une idée en tête, c'est de modifier cette prothèse.
Oui, avec ce défi, pas tellement de modifier la prothèse, mais de résoudre ce problème des caillots qui se formaient à son contact. Alors, comme toujours en science, premièrement, il faut que vous ayez un défi bien précis, une vision de ce qu'il faut faire. Et puis ensuite, il faut trouver des idées. Et ces idées, elles viennent en explorant l'existant, la situation existante. Or, j'avais constaté, c'était connu à l'époque, que lorsqu'on utilisait des valves biologiques, ce qu'on appelait des homogreffes, des valves prélevées sur le cadavre, et que l'on greffait chez l'homme, ces valves ne donnaient pas lieu à des caillots, ne stimulaient pas la coagulation. Pourquoi ? Parce que c'était des tissus biologiques.
On aurait pu donc développer ce système ?
Alors très vite, je me suis dit, voilà la voie. Il y a un problème qui est la coagulation au contact des matériaux étrangers, synthétiques. Je vais me diriger vers les matériaux biologiques. Et tout naturellement, je me suis dirigé vers ce qu'on appelle les homogreffes, c'est-à-dire les valves prélevées sur le cadavre. Et là, j'ai été confronté à un problème, c'est que la loi en France, à l'époque, disait qu'on n'avait pas le droit de prélever des tissus ou des organes chez le cadavre avant 48 heures. Et après 48 heures, naturellement, ces valves étaient infectées. Et donc, ça n'était pas la solution, ça n'était pas possible. Et par ailleurs, de toute façon, leur nombre était insuffisant pour couvrir les besoins que l'on pouvait prévoir. Donc, il fallait que je trouve autre chose. Et cette autre chose, naturellement, ça pouvait paraître logique de dire, ben, si on ne peut pas les prélever chez l'homme, faisons les prélèvements chez l'animal.
Donc, les xénotransplantations.
Puisque là, le nombre est illimité, on peut faire les prélèvements dans de bonnes conditions, il n'y a pas de problème d'infection et il n'y a pas de problème de nombre. Donc, ces problèmes étaient résolus théoriquement si on s'adressait à l'animal. Mais là, un autre problème surgissait, alors là, de taille, c'est-à-dire la réaction immunologique. Lorsque l'on met une valve de porc sur un veau, par exemple, elle est rejetée en l'espace de quelques jours ou semaines au maximum, donc par réaction immunologique. Donc c'est ça, si vous voulez, ma contribution, c'est d'avoir résolu ce problème de rejet immunologique des valves animales implantées chez l'homme ou des valves implantées sur différentes espèces.
Alors justement, comment vous avez réussi à éviter qu'il y ait une réaction de rejet ?
Il y avait deux voies possibles. Il y avait deux voies possibles. Ou bien on faisait un traitement immunosuppresseur aux malades, et ça c'était la voie classique. Mais j'en voulais pas de cette voie classique, puisque je me disais, je veux faire une valve qui résout le problème des caillots à leur contact, donc je veux faire une valve qui n'a pas besoin de médicaments, qui n'a pas besoin d'anticoagulants. Mais si en échange, je dis, il lui faut un traitement immunosuppresseur qui est encore plus contraignant, qui est encore plus dangereux, eh bien, naturellement, le but n'aurait pas. Et je pense que si j'ai été distingué, c'est à cause de cette idée. C'est-à-dire, je vais traiter la valve au lieu de traiter l'homme. Et ça a été l'idée directrice fondamentale. Alors évidemment, ça nécessitait des connaissances en chimie, en immunologie que je n'avais pas, parce que j'étais déjà chirurgien à l'époque, j'avais 32 ans, et chirurgien déjà très actif. Et alors j'ai dit à mon maître Charles Dubost à l'époque, qui est d'ailleurs un ancien académicien aussi, lui, un homme formidable, je lui ai dit, ben, il faut que je passe au moins deux après-midi par semaine à la faculté des sciences, pour rénover mes connaissances en chimie. J'ai besoin d'avoir des connaissances en chimie.
Vous n'avez pas sous-traité ce travail-là, c'est vous qui l'avez fait.
Non, vous savez, quand vous avez une idée aussi folle que de dire on va mettre des valves de porc chez un homme, personne n'y croit. Personne n'y croit. Donc il fallait que je résolve le problème moi-même. Et par conséquent, il me fallait des connaissances en chimie que je n'avais pas acquises suffisamment. Et donc, je suis tourné à la faculté des sciences. Et là, j'ai pris des connaissances complémentaires nécessaires. J'ai fondé mon petit laboratoire de recherche dans un sous-sol de la faculté de médecine. Une pièce en tout et pour tout. J'ai eu de l'argent par Pierre Aigrin, et puis voilà, j'ai démarré, et puis au bout de 2 ans, j'ai trouvé la manière de traiter efficacement ce tissu valvulaire de façon qu'il soit bien toléré chez l'homme.
Alors justement, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la manière dont vous avez traité ce tissu pour qu'il puisse être accepté par le corps humain ?
Le traitement chimique auquel je soumets cette valve est un produit fondamental qui est la base de ce traitement qui s'appelle le glutaraldéhyde. Qu'est-ce que le glutaraldéhyde ? C'est un fixateur de tissu. Et ce produit a 2 mérites. Premièrement, il réduit considérablement l'antigénicité du tissu. Et deuxièmement, il augmente sa résistance à la fatigue parce qu'il crée des liaisons intermoléculaires entre les molécules de collagène. Pas trop compliqué, mais enfin tout ça, ça s'explique. Et le résultat, c'est là. C'est un tissu qui devient, grâce à ce traitement chimique préalable, premièrement inerte, pratiquement inerte, et deuxièmement résistant à la fatigue. Alors à ce moment-là, vous pouvez le mettre à l'intérieur d'un cadre pour faciliter son implantation, et puis l'implanter chez l'homme comme une prothèse. C'est pour ça que j'ai forgé ce terme de bioprothèse. C'est pour préciser que l'origine était bien biologique et les qualités étaient bien biologiques, mais la finalité, finalement, c'était de pouvoir les utiliser aussi facilement qu'une prothèse. C'est-à-dire que c'est des valves qu'on a dans l'hôpital et puis qui sont à disposition quand on en a besoin, au moment où on en a besoin. Très différent, naturellement, d'une greffe où vous êtes obligé d'attendre, vous êtes obligé de faire des prélèvements, etc. Donc une bioprothèse, c'est pas une greffe, ça n'a rien à voir avec une greffe. C'est quelque chose qui est inerte, qui ne doit pas se réhabiter et qui peut durer maintenant quelques 20 à 25 ans.
Comment ça se passe justement pour une bioprothèse en l'occurrence ? Est-ce qu'il y a des essais cliniques qui sont réalisés avant que ce soit distribué à grande échelle ?
J'ai vécu l'époque du pionniérisme glorieux de la chirurgie cardiaque, où tout était possible et permis et même recommandé parce qu'il n'y avait rien. Les malades mouraient. Alors, c'est une époque très particulière. C'est une époque dans laquelle votre encadrement légal, c'est votre éthique ou l'éthique de votre institution. Mon éthique, c'était mon patron, Charles Dubos. Et quand je lui disais, voilà, monsieur, j'ai une idée, il disait, si l'idée lui paraissait faisable, si l'expérimentation avait été bien conduite, et si ça rendait immédiatement service à des malades. Alors, quand vous avez d'une part quelqu'un qui meurt, et d'autre part une nouvelle idée, si cette idée a donné expérimentalement des résultats, car nous faisions beaucoup d'expérimentations, c'est très frappant, ma génération par rapport à la génération actuelle, nous passions presque la moitié de notre temps au laboratoire de recherche, car c'est pas des choses que vous pouvez sous-traiter, il fallait que ce soit les chirurgiens qui fassent la recherche eux-mêmes. Ils étaient confrontés à des problèmes tous les jours, la circulation extracorporelle, les caillots, etc. Et donc, ils allaient au laboratoire et ils essayaient de résoudre les problèmes qui se posaient. C'est grâce à ça que la chirurgie cardiaque a fait des progrès considérables. Et c'est grâce à ça que je dis que, finalement, nous devons beaucoup aux sciences fondamentales. Mais les sciences fondamentales nous doivent beaucoup aussi parce que nous avons su en apprendre le langage. Nous avons su également en maîtriser les techniques. Et ainsi, sciences fondamentales et nous-mêmes ont permis ces progrès considérables de la chirurgie cardiaque qui n'a de nos jours plus rien à voir avec ce que j'ai connu, n'est-ce pas, dans les années 60.
Est-ce que vous avez réalisé vous-même la première transplantation de cette bioprothèse ?
Ah ben oui, c'est moi qui l'ai faite. Aidé par mon patron, qui était un grand homme. J'aime lui rendre hommage, avec beaucoup d'émotion d'ailleurs, parce qu'on dit toujours que les mandarins, les ceci, les cela, enfin tout ça c'est pour les journaux. C'était un grand homme auquel je dois de m'avoir fait confiance. Il était passionné par ce que je faisais. Et puis, lorsqu'il s'est agi d'implanter la première bioprothèse, il aurait pu le faire lui-même. Il m'a dit, non, je vais vous aider. Et c'était très émouvant. Donc, je peux dire que c'est moi, en effet, qui ai implanté la première bioprothèse en 1968, en pleine révolution des étudiants. Pendant que les étudiants faisaient leur révolution, nous implantions la première bioprothèse.
Et faisiez à votre tour une révolution, mais dans le monde médical. Est-ce voilà. Que ce patient, est-ce qu'il est guéri maintenant ? Est-ce que vous avez eu, suite à cette transplantation, des nouvelles de ce patient ?
Ces patients, on les suit, on les suivait très très soigneusement, comme des enfants en fait. Et alors ce patient-là dont je parlais, le premier patient, il se trouve qu'il a vécu 18 ans avec sa valve. Et puis il est mort d'autre chose. Mais comme je disais tout à l'heure, n'est-ce pas, à chaque fois que vous inventez quelque chose, il y a des limites. Les limites sont apparues au bout de 7-8 ans. Les complications. J'ai déjà parlé des complications des valves mécaniques. Elles survenaient au bout de quelques semaines. Les caillots pouvaient survenir quelques semaines ou ultérieurement. Tandis que les complications des bioprothèses, c'était fantastique. Pendant 6 ans, on n'a eu aucune complication. Voilà, de mener une vie normale sans aucune complication. Et puis, les premières complications sont apparues. Et de façon très inattendue, je m'attendais à ce que la valve s'use, ou je m'attendais à ce qu'il y ait des réactions immunologiques retardées. Eh bien, c'est aucune de ces deux complications attendues qui sont survenues. La complication qui est survenue, c'est la calcification de ce tissu. Ce tissu calcifie pour une raison simple, c'est que ce n'est plus un tissu vivant, normal, etc. Et donc, son métabolisme est tout à fait différent. Et ça a été mon deuxième défi. D'abord, une déception, parce que on était triomphant, n'est-ce pas? Et puis, tout d'un coup, vous retombez sur Terre, vous descendez de votre petit nuage. Et donc, descendre de son petit nuage, c'est descendre au laboratoire. Et donc, je retourne au laboratoire, que je n'avais pas quitté, d'ailleurs, et pour résoudre ce problème des calcifications des bioprothèses. Et toutes les années ou les décennies qui ont suivi, à partir des années 70, ont été occupées à justement essayer de résoudre ce problème de calcification des tissus, qui est un problème très général, c'est une dégénérescence assez générale dans l'économie humaine, qui traduit tout simplement un défaut du métabolisme normal, et donc qu'il fallait réduire. Alors là encore, de nouveau la chimie, de nouveau ajouter au traitement fondamental des spécifiants un traitement anti-calcifiant, mais toujours la même chose, faire sur la valve au lieu de le faire sur le malade.
Je vous propose, Alain Carpentier, de marquer une seconde courte pause, et puis nous aborderons en détail cette fois-ci peut-être l'objet qui est devant nous, puisqu'il est tout petit par rapport à la première prothèse de Star. Et puis nous aborderons également la manière dont on opère maintenant les gens qui ont des anomalies cardiaques de ce type. À tout de suite.
Jean d'Ormesson sur Canal Académie, immortel depuis le 18 octobre 1973, date de son élection à l'Académie française, Jean d'O, comme l'appellent familièrement ses lecteurs, n'a pas attendu cette date pour devenir un écrivain célèbre. Retrouvez Jean d'Ormesson sur Canal Académie avec Elisabeth Antebi dans notre émission En habit vert.
Suite de notre émission Éclairage, toujours en compagnie d'Alain Carpentier. Dans cette troisième partie, Alain Carpentier, nous allons reprendre un peu la suite de cette deuxième partie où justement vous parliez des méthodes anticalciques pour que ces bioprothèses d'origine animale puissent durer, avoir une durée de vie plus longue. Alors justement, avec ces méthodes anticalciques, pendant combien de temps on peut vivre avec cette bioprothèse ?
Alors, les bioprothèses de première génération, qui n'avaient pas le traitement anticalcique, duraient environ une dizaine d'années. Après 10 ans, il y en avait à peu près 25% qui devaient être remplacés pour des raisons justement de calcification. Et puis, il y a eu 2 autres générations. Nous en sommes à la 3e génération d'amélioration par ces traitements anticalciques. Et là, on a fait des progrès très importants, puisque quand on met une valve biologique, une bioprothèse aujourd'hui, eh bien, il y a une espérance de vie entre 15 et 25 ans, en fonction de l'âge du malade. Plus le malade est jeune, moins la valve a tendance à durer, plus les calcifications ont quand même tendance à se faire, et plus le malade est âgé, plus il est toléré. J'ai des malades qui ont plus de 30 ans maintenant, qui appartiennent au groupe d'âge autour de 60-65 ans.
Comment se passe l'opération, puisque vous avez entre les mains la prothèse Albert Star, qui est quand même assez massive, enfin massive, ça, tout est relatif, mais qui est quand même assez épaisse, et puis alors à côté, vous avez une toute petite prothèse qui semble repliée sur elle-même.
Alors ça, c'est une conséquence tout à fait inattendue des bioprothèses. Les bioprothèses, ce sont donc des valves fabriquées à partir de tissus. et ce tissu peut être comprimé et ensuite déployé. Alors, une des conséquences de cette caractéristique par rapport aux valves mécaniques qui naturellement ne peuvent pas être comprimées, c'est qu'on va pouvoir les comprimer de façon qu'elles aient la taille d'un petit doigt. On les comprime dans une espèce de cage métallique, n'est-ce pas, compressible. On met à l'intérieur un ballon qui peut se dilater. On monte le tout par un cathéter à travers la peau.
Donc on n'ouvre plus le patient. Il n'y a plus de.
Voilà, il n'y a plus d'incision.
D'incision.
Et la valve ainsi comprimée est à l'intérieur de cette cage métallique qui elle-même a été comprimée. Et montée au niveau où elle doit être mise en place, à ce moment-là, on dilate le ballon dilate la valve, dilate son armature métallique. Cette armature métallique a des crochets qui s'accrochent dans les tissus et la valve ainsi est mise en place sans qu'on ait eu à ouvrir le sternum, ouvrir le malade, et sans qu'on ait eu à faire de circulation extracorporelle. Alors, je m'empresse de dire que c'est le futur, ça. On a déjà commencé, hein. On a déjà commencé, je suis sûr que ça va d'abord réussir, et puis ensuite se développer de façon très importante, parce que, bien évidemment, si vous pouvez faire une opération sans faire une opération, c'est formidable. À la limite, on peut imaginer que ça sera, on mettra ces valves qui prennent actuellement une opération qui dure plusieurs heures en l'espace de quelques minutes et par une petite incision cutanée au niveau de l'aine et sous anesthésie locale. Alors, bon, je ne vais pas non plus trop rêver, mais enfin, je suis sûr que ça va arriver.
Là, en tout cas, c'est déjà le cas. C'est déjà utilisé.
Alors, oui, il y a eu une centaine de cas faits dans le monde. On fait ça avec d'autres équipes, et en particulier les Allemands. Il y a eu une centaine de cas faits dans le monde, et donc c'est pour ça que je peux dire avec certitude que ça va arriver. Alors, je veux préciser que tous les malades ne pourront pas bénéficier de cette technique. Tous les malades et toutes les valves, parce que ça va pour la valve aortique, mais ça va pas du tout pour la valve mitrale. Alors, chez l'enfant, ça a été fait en particulier en Angleterre, par le professeur Bonhoeffer, et ça a déjà des succès formidables chez l'enfant qui ont des malformations congénitales, qui ont été opérés plusieurs fois. Alors, l'avantage de passer à travers la peau, vous évitez de retourner, n'est-ce pas, par des grandes incisions sternales, et donc c'est un avantage considérable.
Et des valves qui sont donc du coup adaptées à la taille de l'organe, suivant si c'est un enfant ou un adulte.
Oui, ça, on peut faire toutes les tailles que l'on veut.
Et une question d'ordre technique, cette valve, quand elle va être insérée comme ça par voie cutanée, elle va se placer au-dessus de la valve malade ?
Non, c'est une bonne question. Elle va se passer à l'intérieur de la valve malade et elle va comprimer elle-même la valve malade. Donc on met juste cette nouvelle valve au niveau du site de la valve malade, on dilate le ballonnet dilate la valve nouvelle et le montage métallique. Et ce montage métallique écarte en quelque sorte et dilate la valve ancienne, la valve malade, qui se laisse, à condition d'avoir une force suffisamment, qui se laisse ainsi laminer en quelque sorte, de façon que la valve soit bien positionnée.
Et est-ce que vous savez déjà comment vous allez procéder lorsque ces patients, cette centaine de patients qui a donc été opérés de cette manière, il va falloir remplacer cette valve au bout de 25 ans. Vous allez opérer pour le coup ?
Eh bien, on mettra peut-être, d'abord j'espère qu'on aura fait encore des progrès qui permettront de passer de 25 ans à 30 ou 40 ans. C'est ce que nous faisons actuellement dans notre laboratoire avec des résultats assez prometteurs d'ailleurs. Donc on va encore faire des progrès sur l'augmentation de la durée de fonctionnement de ces valves. Mais on peut très bien imaginer de mettre une valve à l'intérieur d'une valve. Et évidemment, à chaque fois, on perd en diamètre. On perd un peu en diamètre. Mais enfin, on peut imaginer, lors d'une réintervention nécessaire, de mettre une valve un tout petit peu plus petite, mais qu'on va dilater de nouveau par le même mécanisme.
Alain Carpentier, pour terminer cette émission, vous êtes chirurgien à la fois inventeur. Quelles sont vos recherches en cours, puisque je suppose que votre esprit foisonne d'idées?
Bon, c'est vrai que j'anime un laboratoire de recherche extrêmement actif, à l'hôpital européen Georges Pompidou, et qui est un laboratoire très particulier parce que c'est un laboratoire d'accueil de jeunes chercheurs. Moi, je crois beaucoup à l'accueil des jeunes chercheurs, ça manque dans notre pays. Donc c'est un laboratoire dans lequel j'accueille des jeunes chercheurs qui ont des bonnes idées. Et plus elles sont folles, ces idées, d'ailleurs, plus elles m'intéressent, parce que je sais qu'il faut se méfier des idées qui paraissent folles, c'est souvent les meilleures. Et donc, voilà, c'est à l'intérieur de ce laboratoire. Alors, on travaille dans beaucoup de directions, hein, aussi bien en immunologie des transplantations que en organes artificiels d'assistance, en matière de biologie fondamentale, etc.
Et également, par exemple, tout ce qui est du domaine de la xénotransplantation, remplacer par exemple un cœur humain par un cœur d'origine animale.
Ah ça, je m'attendais à cette question. On finit toujours par la question du cœur artificiel. Mais ça, il faut une longue patience parce que pour l'instant, je ne peux pas révéler où j'en suis à cet égard.
Et j'espère que quand vous pourrez nous en dire plus, vous viendrez au micro de Canal Academy. Merci Alain Carpentier de nous avoir rendu visite. J'ajoute que vous revenez tout juste des États-Unis où vous avez donc reçu le prix Albert Lasker 2007, un prix reçu conjointement avec Albert Starr que vous devez connaître, je suppose, personnellement.
Il faut que je dise quelque chose sur Albert Starr. Parce que j'ai déjà parlé de Charles Dubost en disant que c'est un grand homme, mais ça c'est le deuxième grand homme que j'ai rencontré dans ma vie. Et le deuxième grand homme que j'ai rencontré dans ma vie, vous allez voir pourquoi. Parce que lorsque j'ai inventé les premières bioprothèses, lui qui était le spécialiste mondial des valves, il est venu me voir dans mon laboratoire. J'avais juste fait une toute petite publication dans un petit journal de rien du tout. Et il est venu me voir dans mon laboratoire et il a été passionné parce que ça réglait le problème auquel il était confronté. Et il m'a dit, mais il faut absolument qu'on développe ça de façon que tout le monde puisse utiliser cette technique. Et alors j'ai dit, bon, j'ai déjà été voir des compagnies, en Rhône-Poulenc en particulier, mais personne ne croit à mon histoire de valve de cochon chez l'homme. Alors donc, et il dit, mais moi je vais vous introduire aux États-Unis. Et là où il est un grand homme, c'est que d'abord il avait cette vision, plus que la mienne, que ça pouvait avoir des effets très importants dans le futur. Et ensuite, il m'a introduit dans la compagnie qui fabriquait sa propre valve. Donc, imaginez cet homme qui introduit quelqu'un, sachant confusément qu'il va être son compétiteur. Et d'ailleurs, c'est ce qui arrive. La valve de Starr est presque plus utilisée et la bioprothèse est de plus en plus utilisée. Alors, j'étais très content qu'il ait été distingué par le prix Lasker et lors de la cérémonie qui était très, très émouvante. J'ai rendu hommage à Albert Starr en racontant cette histoire qui est un exemple, n'est-ce pas? Un exemple de la manière dont il faut se conduire vis-à-vis des jeunes.
Eh bien, hommage lui également rendu au micro de Canal Academy et j'invite nos auditeurs à aller faire un tour sur le site internet du prix Lasker où ils pourront donc en savoir plus et sur vous et sur Albert Starr. Merci Alain Carpentier et puis j'espère une prochaine fois quand vous pourrez nous en dire plus sur vos recherches en cours. À plus tard, au revoir.